Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour, je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la bienvenue à Marcher vers le bien-être. J'ai pour vous une belle surprise aujourd'hui. Nous allons explorer ensemble comment rendre notre corps heureux ou encore plus heureux. Et nous le ferons à partir d'un merveilleux livre qui a justement pour titre « Le corps heureux, manuel d'entretien ». J'ai découvert ce livre grâce à notre collaborateur de santé à pied, Michel Desgagné, et il avait trouvé une place de choix dans mon programme d'entraînement de marcheur. L'auteur du livre « Le corps heureux » est Thérèse Cadrin-Petit. Autrefois danseuse classique professionnelle, Mme Cadrin-Petit s'est consacrée très tôt à la compréhension du mouvement humain. Des études en physiologie et en ostéopathie, ainsi qu'une formation comme professeur de table Panchna, l'ont amenée à élaborer une méthode originale, soit la gymnastique sur table. L'école de gymnastique sur table existe depuis 1985. J'ai trouvé le corps heureux manuel d'entretien un excellent instrument pédagogique qui explique clairement et simplement la mécanique du corps humain, les quatre qualités essentielles d'un corps heureux et surtout comment maintenir notre corps heureux au quotidien avec des gestes et des exercices intégrés à la vie de tous les jours. Pour nous en parler, j'ai le grand plaisir d'accueillir à Marcher vers le bien-être Michel Cousinat-Baudet, enseignante à l'école de gymnastique de table à Montréal. Bonjour Michel et merci beaucoup de vous joindre à nous pour cette exploration d'un corps heureux.
Bonjour Denis.
Alors avant d'amorcer notre discussion, Michel, parlez-nous un peu de vous. On vous décrit sur le site de l'école de gymnastique sur table comme une athlète née. Vous avez longuement pratiqué la nage synchronisée et la gymnastique acrobatique. Et pourtant, vous êtes passé de la piscine et du gymnase à la table. C'est toute une évolution. Alors, expliquez-nous votre cheminement et pourquoi ce changement?
En fait, j'ai découvert la table. C'est mon père qui m'a amené à la gym sur table quand j'avais 16 ans. Donc, j'avais pratiqué plusieurs activités de compétition, en fait. Particulièrement la gymnastique avec les appareils au sol, les barres asymétriques, le cheval sautoir, la poutre et tout ça. Ce qui fait que j'avais un certain déséquilibre au niveau de mes chaînes musculaires. Donc, très, très forte au niveau des muscles du dos pour permettre là, toutes les acrobaties vers l'arrière. Donc, moi, je me sentais quand même bien, mais il m'a offert une session de 6 semaines illimitée pendant l'été. Puis, il me dit, bon, si tu vas 3 jours par semaine, ça vaut la peine, essaye ça. J'ai beaucoup aimé, en fait. Cela dit, à 16 ans, je n'étais pas tout à fait dans le public cible de la gym sur table, mais au bout des 6 semaines, j'ai quand même compris les bienfaits que ça apportait à mon corps, puis mon corps avait commencé à changer. Donc, moi, j'avais pratiquement des boudins dans le dos tellement j'étais musclée.
Ah oui, changé comment? C'est ça? Qu'est-ce qui s'est passé?
Plus équilibré, plus balancé. C'est ça, oui. Donc, mes chaînes qui étaient en excès de tension étaient moins tendues, mais conséquemment, si on a une chaîne qui est en excès, il va y avoir d'autres chaînes qui vont être moins actives. Donc, au bout de 6 semaines seulement, je voyais quand même déjà des changements, puis un certain bien-être. Par contre, je n'ai pas poursuivi, j'ai continué à faire de la gymnastique et mes activités d'adolescente. Par contre, j'ai retrouvé la gym sur table autour de 23 ans. Et en fait, j'ai commencé comme secrétaire dans le bureau.
À l'école?
À l'école de gym sur table, en me disant, ben peut-être qu'ils vont me laisser m'entraîner. ça ferait partie de mes avantages sociaux. Et oui, effectivement. Donc là, j'ai commencé à m'entraîner plus sérieusement, d'autant plus que j'étais sur place régulièrement. Et j'ai adoré. Puis, j'ai demandé à Thérèse si je pourrais faire la formation pour devenir enseignante. Alors, j'ai fait ma formation, je pense, en 2005. Donc, ça, ça fait presque 15 ans de ça déjà. Et à partir de là, j'ai découvert mon autre passion qui est l'ostéopathie, en fait. Donc, c'est Thérèse qui m'a envoyé voir l'ostéopathe parce que je nettoyais les planchers, j'ai glissé dans le studio, je suis tombée. Et elle me dit, tu vas aller voir mon ostéopathe.
Vous êtes fait mal, c'est ça?
Oui, j'avais fait une bonne chute quand même. Oui. Donc, je suis allée voir son ostéopathe et là, j'ai découvert l'ostéopathie qui est mon autre passion. Mais je n'ai jamais quitté la gym sur table parce que je trouve que c'est une technique extraordinaire qui peut vraiment changer la vie de quelqu'un au niveau physique, minimalement. Peut-être à d'autres aspects aussi, mais ça aide les gens à maintenir la forme, retrouver la forme, se remettre de certaines blessures sans risquer d'aggraver la situation.
Alors, justement, en quoi ça consiste, la gymnastique sur table? Il y a vraiment une table?
Il y a vraiment une table. C'est une table en bois qui est montée sur deux tréteaux. Il y a un petit tapis pour que ça soit plus confortable, quelques coussins également pour mettre sous la tête. Et la table a une forme particulière. Donc, elle a un peu la forme d'un os long. Donc, plus large aux extrémités, plus étroite au centre. Et cette forme-là va permettre certains accrochages ou certaines positions qui vont amener le corps... on va déplacer le centre de gravité du corps pour venir charger la musculature, mais en utilisant le corps et non pas des gros poids ou des appareils. Donc, par exemple, on peut se mettre à cheval sur la table avec les pieds à l'intérieur des tréteaux. Donc, le bassin et le bas du corps vont être stabilisés. Mm-hmm. Et là, on va déplacer le tronc et les bras dans l'espace, différentes positions. Puis, ça va venir solliciter la musculature profonde d'une façon qui n'est pas possible sans la table, pas possible au sol. On peut également s'allonger sur le dos et s'accrocher avec les bras. Puis, à ce moment-là, c'est le bas du corps qu'on va déplacer dans l'espace pour charger la musculature profonde.
Si j'ai bien compris, on laisse la gravité faire une partie du travail, c'est ça?
On travaille contre gravité. Parce que l'idée, c'est d'aller chercher un certain étirement axial, par exemple. Mm-hmm. Donc, ce qu'on peut faire en tout temps, idéalement. Donc, si je suis assise sur la table ou assise sur une chaise, par exemple, bien, je vais m'assurer d'aligner certains segments, puis d'engager le tonus profond pour allonger la colonne vertébrale, par exemple, et venir décomprimer les vertèbres. Et tout ça, ça passe par la musculature profonde. Donc, il y a cette idée d'aller vers le ciel, entre guillemets, ou de contrer la gravité. Et on garde cet étirement axial-là pour aller chercher d'autres positions. Donc, par exemple, je pourrais incliner mon tronc vers l'avant à 45 degrés en restant bien droite, mais avec cette idée d'élongation, ou vers l'arrière ou sur le côté. Et après, on ajoute des mouvements de bras et on va aller chercher tous les segments parce que c'est vraiment une méthode qui va travailler l'ensemble du corps dans tous les exercices. Mm-hmm. Plutôt que le travail en salle où là, on va aller travailler un muscle à la fois. Si on veut adresser la posture, parce que c'est avant tout un entraînement à visée posturale, il faut vraiment venir chercher toute la chaîne musculaire puis avoir un engagement de tout le corps pendant les exercices. Et c'est là où la posture va changer.
Mmh, d'accord. Alors, on y reviendra un petit peu plus tard dans l'émission parce que là, j'aimerais qu'on se concentre un peu sur le corps heureux. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est un corps heureux? Qu'est-ce qui rend un corps heureux?
Mais un corps heureux, ce n'est pas un corps parfait. Hein? Ça, c'est la première chose. Dans notre société, on met beaucoup l'emphase sur un certain esthétique.
Oui, voilà.
Ce qui est, à mon avis, c'est pas le propos d'un corps heureux. Je ne suis pas certaine que toutes ces choses-là qu'on peut imposer à notre corps dans un esprit ou une optique d'atteindre une perfection esthétique et visuelle, ça ne nous rend pas nécessairement plus confortable ou plus en harmonie avec notre corps. Mm-hmm. Donc, un corps heureux, c'est un corps qui est équilibré, qui est vivant, qui est habité.
C'est un corps où on se sent bien, c'est ça?
C'est un corps où on se sent bien. C'est sûr que c'est personnel à chacun. Donc, mon corps heureux n'est pas nécessairement le vôtre, ni celui de la voisine. Il faut quand même tenir compte de la morphologie de chacun, de ses antécédents. Il y a peut-être des blessures ou des pathologies qui ont déjà eu lieu. Les activités que les gens vont faire également vont amener certaines attitudes posturales, si on veut.
Alors, je pose tout de suite la question. Pour un marcheur, c'est quoi un corps heureux?
Un corps heureux pour un marcheur? Ça prend une posture qui est juste.
La posture.
La posture, à mon avis, est vraiment la base de toutes les activités, puis même le quotidien. Mm-hmm. Une mauvaise posture va amener plusieurs maux par déséquilibre. Donc, il va y avoir des segments qui ne sont pas bien alignés, des muscles qui vont tirailler, des ligaments qui vont être trop étirés ou des muscles trop tendus. Ça va nous amener des maux. Et quand on a mal, on a tendance à vouloir bouger moins.
Surtout le mal de dos.
Le mal de dos en est un c'est rampant. Et c'est pas une fatalité. Donc, on peut revenir d'un mal de dos. Moi, j'ai beaucoup de clients à la gym sur table qui ont eu des hernies, des douleurs très importantes, des sciatiques, des trucs comme ça, qui aujourd'hui fonctionnent très, très bien, font des cours avancés sans problème. Donc, on peut venir à bout de ces maux-là, en corrigeant la posture, entre autres. Donc, pour un marcheur, ça prend un certain tonus de base. Donc, mm-hmm. si on est hypotonique, bien, on va marcher en s'affaissant, puis il n'y aura pas le rebond. Là, on veut que le pied repousse le sol. Ça prend un certain étirement axial dont je vous parlais tantôt. Donc, il faut avoir le fameux core, qui est très en vogue en ce moment. Mm-hmm. Mais ça, c'est la musculature profonde qui est collée sur le squelette. Donc, elle doit être tonique, mais souple également, pour permettre un bon alignement au niveau des segments. Ça prend un certain tonus abdominal, sans dire qu'on a le six-pack, là. Ça, c'est pas nécessairement utile,
c'est
mais
Monsieur
ça
Univers,
prend
là.
Monsieur Univers, ouais. oui, qui n'est ouais. pas très souple, à mon avis. Hein, on veut être fort, mais on veut être souple
oui,
également.
Oui, oui.
On veut un corps qui est équilibré, mm-hmm. donc qui n'est pas dans un excès de tonus ni dans à tonne. Donc, il y a un certain gainage abdominal juste pour stabiliser le tronc. Puis, ça prend des jambes qui sont fortes, quand mm-hmm. même. Je dis fortes, là. Tu sais, il faut être capable de marcher longtemps.
Donc, la posture, ce n'est pas nécessaire... Ou la posture juste, ce n'est pas nécessairement d'être raide, là.
Comme, au contraire.
Comme, on était tout petit, on nous disait, tiens-toi droit, ou en fait, c'est comme si on avalait un parapluie, là, on voit ça raide, ou les militaires, très, très raide, là.
Non, je vous dirais qu'une posture...
C'est pas ce qu'on recherche.
Non, on veut... C'est un éternel recommencement, un peu comme la respiration. Donc, il va y avoir l'inspiration, l'expiration. Donc, le tonus, il va y avoir une certaine élongation et ensuite un léger affaissement. Élongation, affaissement, qui va être en partie tributaire de la respiration. Mm-hmm. Donc, quand on inspire... Le diaphragme, qui est le muscle principal de la respiration, va descendre. Il est situé au milieu du tronc, à peu près. Il va pousser les organes un peu vers le bas. Et à l'expiration, il va remonter. Donc, il y a un certain brassage viscéral qui a lieu à ce moment-là. Et il y a également un petit affaissement à l'inspiration au niveau de la colonne vertébrale et une certaine élongation. Attendez, il ne faut pas que je me trompe. J'inspire, inspire, le diaphragme descend, la colonne devrait s'allonger et à l'expire, il y a un petit affaissement, ouais. excusez-moi. Mm-hmm. Mais tout ça pour dire que c'est un système de pompage et
oui,
c'est
oui.
Comme une vague qui revient constamment. Donc, la rigidité va amener des tensions. Mm-hmm. On veut l'inverse. Mm-hmm. On veut que ce soit souple, que ce soit mobile.
Pour être flexible.
Oui, voilà. Tout ça.
Oui, oui.
Exactement.
Donc, ça, c'est la posture debout, pour ainsi dire, ou en marchant,
oui,
ou debout,
oui.
ça pourrait être presque immobile. On est à la cuisine, on fait un travail.
Absolument.
Et c'est quoi, à ce moment-là, la posture juste à maintenir?
La posture juste à maintenir, c'est sûr qu'il y a des repères anatomiques. T'sais, si on veut rendre ça un petit peu plus pédagogique, ben, il faudrait, dans un premier temps, être sur nos deux pieds, avec mm-hmm. le poids égal entre le pied gauche et le pied droit.
Oui.
Hein, vous seriez étonné, si vous commencez à porter attention, il y a beaucoup de gens qui vont avoir un petit peu plus de poids sur une jambe. Peut-être mm-hmm. pour épargner un segment de l'autre côté qui est un peu souffrant.
Mm-hmm.
Donc, c'est d'avoir le poids réparti sur les deux pieds et réparti entre l'avant et l'arrière du pied également. Donc, il y a des gens qui vont avoir plus de poids sur les orteils. Donc, les lignes de gravité à ce moment-là sont un petit peu déportées vers l'avant. Ce qui va amener beaucoup de tension au niveau de la chaîne postérieure, donc au niveau des mollets, les ischio-jambiers, voire même le bas du dos, parce que la musculature va retenir le squelette pour pas qu'il tombe vers l'avant.
Mm-hmm.
Et à l'inverse, trop de poids sur les talons, bien là, ça va amener un excès de tension au niveau des muscles à l'avant du corps. Donc, on essaie d'avoir ça à peu près égal, sans bloquer les genoux.
Les genoux.
Si vous bloquez les genoux, ça va bloquer le bas du dos. Donc, on veut le genou allongé, mais légèrement fléchi, juste pour dire, pour amener une petite détente dans le bas du dos. Et ensuite, on veut avoir les épaules au-dessus du bassin, au-dessus des pieds, et la tête au-dessus des épaules. Souvent, la tête est déportée vers l'avant.
Mm-hmm.
On voit ça beaucoup aussi avec les téléphones, tablettes et tout ça.
Ah, où, oui, oui,
là,
oui.
on penche beaucoup vers l'avant et ça amène des problématiques au niveau cervical.
Mm-hmm.
Donc, debout, ce serait à peu près ça.
Maintenant, assis, est-ce qu'il y a une bonne posture qu'on devrait adopter? Et probablement que oui, là.
Oui. C'est sûr que ces postures-là, hein, on est en mouvement. Donc, debout, ça va varier un peu plus, puis on va moins ankyloser parce qu'on a tendance à bouger un petit peu. Assis sur la chaise, encore là, on a des repères qui sont optimaux. Mais c'est pas vrai que dans une journée de 8 heures au bureau, vous allez être assis convenablement pendant 8 heures. C'est pas possible. Non. Mais vous pourriez ponctuellement peut-être vous mettre une petite alarme à toutes les heures puis dire « Ah, je me replace comme il faut, puis je vais tenir ça pendant 30 secondes, une minute, puis après je vais agréer à mes occupations. » Le fait de faire ça régulièrement, ça va inciter votre corps à retrouver cette position-là plus souvent parce qu'il va être bien. Au début, c'est un peu difficile, mais plus vous le faites, plus ça devient naturel et plus vous arrivez à le tenir longtemps. Donc, les repères sont sensiblement les mêmes au niveau du tronc et du bassin. Donc, je vais avoir la tête au-dessus des épaules, les épaules au-dessus du bassin.
Assez droit quand même.
En fait, la ligne, ça serait le menton vis-à-vis le sternum, vis-à-vis le pubis. Donc, le sternum, c'est l'os devant la cage thoracique où les côtes viennent se connecter. Le pubis, qui est l'os à l'avant du bassin. Donc, il faudrait qu'il y ait une certaine ligne. Si la tête est projetée de devant, ça ne respecte pas cet alignement-là. Puis, si on est trop affaissé au niveau de la cage thoracique, bien là, la cage thoracique recule puis elle n'est plus alignée, elle non plus. Donc, les deux pieds par terre, comme quand j'étais debout, poids égal sur les deux pieds. Genoux à 90 degrés idéalement. Le bassin pourrait être un tout petit peu plus haut que les genoux. Ça serait plus confortable, donc, de monter la chaise. Par contre, il faut que les pieds touchent le sol. Si vous avez les pieds dans le vide, le bassin va tirailler pour essayer de stabiliser. Il faut vraiment avoir les pieds appuyés, quitte à mettre un petit bloc sous les pieds ou un livre d'une certaine épaisseur. Donc, les deux pieds à plat, genoux 90 degrés. Puis au niveau du bassin, c'est là où on a notre... Quand on était debout sur les pieds. Donc, là, on est plutôt appuyé sur le bassin, principalement au niveau des ischions. Donc, les ischions, ce sont les petits os des fesses. Donc, on peut glisser la main juste en avant du galbe fessier, puis il va y avoir un... C'est un peu plus dur, là. Donc, sur les ischions. Et après, ben c'est ça. C'est le bassin, les épaules, la tête. Ce sont à peu près toujours les mêmes
repères. C'est là où tout le poids repose.
Idéalement, c'est là où tout le poids repose.
Qui devrait.
Je vous dirais que la plupart des gens sont un petit peu appuyés sur leur coccyx. Ce qui va bloquer... beaucoup la circulation, la mobilité du bassin, ça va faire que les lombaires vont reculer, vont s'affaisser. Fait que tout part de la base. Donc, debout, la base, ce sont les pieds. Et assis, la base, c'est le bassin, les ischions.
Intéressant. On n'y pense pas. C'est pas un automatisme.
Chacun son métier. C'est quelque chose qu'il faut... en fait, les enfants l'ont à peu près intuitivement.
Intéressant.
Et on le désapprend.
Oui, comme marcher, on désapprend.
On désapprend la marche, effectivement. Alors, il faut y revenir. Puis moi, je pense que c'est notre société moderne qui amène un peu ça. Donc, avant, on était beaucoup plus actifs, ne serait-ce que pour aller chercher l'eau au puits ou faire les activités agricoles, tout ça. Donc, on était constamment dans le mouvement.
Comme on dit souvent, nous sommes devenus une société assise.
Oui, mon Dieu. Puis ça commence à l'école. Fait que nos jeunes enfants, on les assoit sur des chaises pendant toute la journée.
Et ça commence maintenant à l'auto, quand on place les petits dans des sièges et puis ils ne bougent pas.
Exactement.
Alors, debout, assis, là, on s'allonge un peu.
On s'allonge. la posture allongée. Vous parlez pour le sommeil, par exemple?
Pour le sommeil, oui, probablement. Okay. Parce que c'est là où on passe le plus de temps allongé. Peut-être bien dormir. Encore une fois, pour que le corps soit heureux, pour qu'on soit... bien en forme pour pouvoir marcher éventuellement.
Oui. Ben, en fait, je vous dirais, on devrait être capable de dormir dans toutes les positions, normalement. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise position pour
côté
dormir.
Côté droit, côté gauche, sur le dos.
On devrait être en mesure de varier les positions. C'est sûr que si vos articulations sont rigides, si les muscles n'ont pas de souplesse, si vous êtes trop tendu au niveau musculaire ou pas assez, ça va amener des inconforts et des maux. Et c'est là où je peux pas dormir sur le ventre, je suis pas confortable. Donc, le fait d'entretenir un corps heureux, d'avoir une posture qui est optimale pour soi, va aider à avoir des positions confortables pour le sommeil, par exemple. Donc, si le corps n'est pas assez tonique, parce que vous êtes très sédentaire, vous ne marchez pas, quand vous allez vous allonger, bien, les segments vont s'affaisser un petit peu puis ils ne respecteront pas l'alignement. Si vous êtes trop tonique, trop tendu, parce que soit vous faites trop d'exercices ou vous êtes trop stressé puis vous bougez pas, vous êtes en train de cristalliser.
Mm-hmm. Oui.
Mais à ce moment-là, vous allez avoir trop de tension, puis quand vous allez vous allonger sur le dos, ça ne lâchera pas. Donc, il y a des façons de se préparer au sommeil, comme par exemple aller marcher dehors 15-20 minutes. Ça peut relâcher, assouplir un peu le corps. Vous pourriez faire des étirements doux 15 minutes avant d'aller vous coucher, ou simplement vous allonger sur le dos, les genoux fléchis, puis laisser le corps se détendre en respirant calmement. Donc, ça peut être des façons de préparer le sommeil.
Alors, si on se réveille le matin tout raide, c'est qu'on n'a évidemment pas bien dormi, mais on a dormi peut-être, la posture n'était pas tellement bonne.
Je ne suis pas sûre que je blâmerais la période de sommeil comme telle, mais c'est un signe que votre corps a besoin d'un petit peu plus d'attention.
Oui.
Donc, peut-être qu'il faudrait travailler à faire plus d'étirements si vous êtes tendu ou un certain travail postural pour rééquilibrer les tensions. Donc, votre corps vous envoie en fait un message. Donc, il faut l'écouter.
Parlant d'écouter, la levée des poids lourds.
Oui.
Il y a tellement de gens qui se font mal au dos.
C'est mon souhait. C'est ma vache à lait.
Alors, c'est quoi vos techniques?
En fait, c'est des choses qu'on entend souvent. Il n'y a rien de sorcier, mais de le mettre en application, c'est pas si simple.
Oui.
Donc, moi, je vous dirais que ça commence par être conscient. Donc, on est souvent très, très pressé. On n'habite pas notre corps. Hein? Tout se passe au niveau de la tête. Le computer central est là, puis on oublie ce qu'il y a en dessous. Donc, déjà, juste d'être plus connecté à son corps. Puis tantôt, on parlait, il nous envoie des messages, là, je vous disais, au lever, les douleurs, tout ça. Bien, vous pouvez ignorer ça puis continuer votre journée. Ou commencer à faire quelque chose pour améliorer la situation.
Voilà.
Donc, juste de prendre conscience déjà de comment on habite ou comment on n'habite pas son corps. Parce qu'il y en a qui ne l'habitent pas, puis c'est correct. C'est juste, ça va être une autre démarche. Et de prendre le temps de se placer avant d'entamer l'activité ou de lever la charge, mais ça peut être passer l'aspirateur ou faire la vaisselle, mais juste de se recentrer un peu. Si on parle spécifiquement de lever une charge, bien, mettez-vous face à la charge. Il y a le classique pencher par en avant, tourner avec une charge à bout de bras. Ça, c'est garanti, vous faites un hernie discale, là. C'est pas drôle.
Oui.
Donc, déjà, juste de se mettre face à son profit. Vous prenez un moment juste pour vous recentrer puis penser à comment votre corps est organisé. Vous pliez les genoux. Donc, généralement, on va se pencher en arrondissant le dos puis en allant chercher avec les bras.
Oui.
À éviter absolument. Donc, vous allez rester dans votre axe au niveau de la colonne vertébrale. Donc, tantôt, on disait épaule, tête, épaule, bassin. Ça, ça ne change pas.
Tête, épaule, bassin.
Aligné. Voilà. Donc, si je me penche vers l'avant, je vais plier mes genoux. Je vais reculer les fesses, le bassin, pour garder mon dos droit. Donc là, je suis dans un angle de 45 degrés vers l'avant, par exemple. Je plie beaucoup mes genoux, je prends ma charge, je remonte avec la force de mes cuisses, de mes jambes.
Ce sont les jambes qui travaillent.
Ce sont les jambes qui travaillent. Et on fait ça le plus possible. Donc, ça a l'air banal, mais ramasser la casserole dans le fond de l'armoire, on le fait comme ça.
On le fait comme ça, même
flatter
si c'est un poids léger, c'est toujours la même technique.
Toujours, toujours. Puis ça va vous faire des cuisses.
Oui.
Vous allez pouvoir mieux marcher.
Non, c'est merveilleux. Et pelleter la neige, mais là, on arrive au printemps.
Ouais, c'est moins de tendance en ce moment.
Alors, on prend une petite pause et on revient avec la première des quatre qualités d'un corps heureux. Nous sommes toujours en compagnie de Michel Cousinat-Baudet. Alors, la première qualité d'un corps heureux, c'est la force musculaire. Et là, je pense à Rambo.
Oui, il est fort, effectivement. On n'a pas nécessairement à aspirer à être comme Rambo ou Monsieur Univers ou un haltérophile ou tout ça, mais on veut quand même avoir une certaine force musculaire pour être confortable, faire nos activités, mais aussi c'est une question de, à la limite, une question de survie. Là. Si vous tombez dans la piscine, il faut être capable de sortir.
Ah, ça, c'est intéressant.
Oui.
C'est une espèce de barème.
Oui, c'est le barème minimal.
Minimal.
Si vous n'êtes pas en
c'est
mesure
la survie.
De
intéressant,
soulever
ça.
Votre poids,
oui.
Vous glissez dehors, vous tombez. Mm-hmm. Faut être en mesure de se redresser. Mm-hmm. Si vous vous êtes blessé, ben vous allez pousser avec vos bras sur un banc que vous avez trouvé, puis vous allez essayer de vous redresser avec la force de vos bras. Mm-hmm. Si vous tombez dans un trou, vous devez traverser par-dessus un mur, il faut être capable minimalement de lever son propre poids pour une courte durée, juste mm-hmm. le temps de se sortir du pétrin.
C'est la base.
Voilà. C'est la base. Ouais. Puis après, ben, c'est sûr que plus on est fort, plus on veut bouger, faire des trucs. Si vous faites des activités comme du ski ou de la marche, ou mm-hmm. peu importe, il faut quand même avoir une certaine force.
C'est intéressant ce que vous disiez tout à l'heure. Vous parliez des jambes et le reste ou le haut du corps. La plupart des gens qui marchent un peu, minimalement, ont des jambes relativement en forme. Plus on marche, plus les jambes sont fortes, bien sûr. Mais même moi, je marche beaucoup, mais le haut du corps, j'ai pas tendance à l'exercer beaucoup. J'imagine que vous le voyez chez la plupart des gens, ça.
On le voit, oui, mais vous seriez étonné le nombre de personnes que je croise qui n'ont pas tant de jambes.
Ah oui.
On parlait de la chaise tantôt, par exemple.
Ah oui,
donc,
tout à fait, oui.
Puis moi, je côtoie toutes sortes de gens à la gym sur table. On a des gens qui sont très, très entraînés, qui viennent, c'est des athlètes qui font un sport très précis, mm-hmm. qui viennent pour mm-hmm. rééquilibrer. Mais on a également des gens qui décident de se remettre en forme et qui partent de loin. Donc, on fait tout le corps. Mais c'est sûr qu'il faut donner un petit peu plus d'attention aux bras, ne serait-ce que de la façon qu'on est fait, on est debout sur nos jambes. Donc, minimalement, on va faire un certain entraînement.
Il y a toujours un minimum d'exercice ou d'entraînement.
Des membres inférieurs, il faut monter des escaliers, il faut se déplacer. Voilà. Bon. Au niveau des bras, ben, c'est un travail qui est plus intermittent. Mm-hmm. Et on est moins dans une époque où on a tendance à soulever des grosses charges. Là, on soulève des crayons, des feuilles, puis on pianote sur un ordinateur. Donc, oui, il faut adresser un petit peu plus les bras dans le renforcement musculaire.
C'est la technologie qui a pratiquement tout remplacé.
Ouais.
C'est intéressant parce que je lisais dans le bouquin la différence, et ça m'a fasciné, entre les muscles superficiels et les muscles profonds. Donc, si on parle de Rambo ou Monsieur Univers, mm-hmm. il y a les muscles, si j'ai bien compris, superficiels qui sont, bon, la table à laver ou la planche à laver, et puis, on flexe les muscles et tout, là. Mais ce n'est pas ce qui est important, j'imagine. Les muscles profonds, plutôt, sont peut-être davantage importants.
Je vous dirais que pour monsieur, madame, tout le monde, les muscles profonds sont beaucoup plus importants que...
Et c'est quoi les muscles profonds?
Ben là, je ne pouvais pas tous vous les nommer, mais ce sont des muscles...
Le principe, le concept, là.
Des muscles qui sont... c'est ceux qui sont le plus près du squelette et qui vont stabiliser le squelette. Donc, au niveau de la colonne vertébrale, ce sont tous les muscles paraspinaux, donc qui vont mm-hmm. être entre les vertèbres dans différents angles et à différents étages. On a des muscles qui ont les mêmes fonctions au niveau de ce qu'on appelle la ceinture scapulaire. Donc, les omoplates, clavicules, bras, tout ça, ce sont la ceinture mm-hmm. scapulaire. Donc, on a des muscles profonds qui viennent stabiliser ces segments-là. On a la même chose au niveau des hanches en profondeur. Donc, des muscles qui sont de nature plus tonique, en fait, parce qu'ils vont travailler toute la journée pour nous tenir nos morceaux en place, si on veut, versus des muscles phasiques qui, eux, vont permettre la locomotion. Donc, ils vont nous faire bouger les bras, les jambes. Donc, si on revient avec notre Rambo, ben c'est chest-bras. T'sais. Donc, c'est les gros biceps avec le pectoral, puis ça se veut visuellement plaisant, disons. Mais je vous dirais que vous pouvez avoir des gros muscles, ça ne veut pas dire que vous êtes fort et endurant. Donc, c'est la musculature profonde qui va venir... donner ce petit extra-là, puis qui va aussi permettre d'avoir un corps qui est fonctionnel, mm-hmm. qui est souple, qui est fort, qui permet d'aller faire toutes nos activités sans qu'on ait de douleur ou de maux également, parce que ça va maintenir les trucs à la bonne place.
C'est ce qui rend le corps heureux.
Oui,
voilà.
C'est vraiment plus la musculature profonde.
Très intéressant. C'est ce qu'on devrait travailler tous les jours. Ça devrait être notre objectif.
Mais c'est pas le cas. Ouais. Pourtant, il y a des petits trucs simples qu'on peut faire pour...
On y viendra tantôt, parce que j'ai une autre question mm-hmm. d'eux. Est-ce qu'il y a une grande différence entre les hommes et les femmes? Dans la morphologie, évidemment, oui, mais est-ce qu'on retrouve d'autres au niveau de la musculature?
Au niveau de la musculature? Oui, je veux dire, juste, tout ça, ça part de l'aspect hormonal. Mm-hmm. Donc, on a les mêmes hormones, mais pas en quantité identique. Donc, les femmes vont avoir un corps qui est généralement plus souple, généralement, hein, c'est pas nécessairement le cas. Puis ça peut être modifié par des activités ou des antécédents qu'on a eus. Donc, ils vont être généralement un peu plus souples, un peu plus lâches pour permettre la grossesse et l'accouchement.
Voilà.
Donc, par exemple, une femme enceinte va sécréter de la relaxine qui va permettre une certaine laxité au niveau de ses ligaments pour que le bassin puisse s'élargir, puis, bon, tout le processus, ce qui n'est pas le cas chez les hommes, évidemment. Les hommes, eux, ont tendance à être un petit peu plus forts. Donc, à poids et à taille égale, un homme va toujours être plus fort musculairement qu'une femme. Et ça, c'est hormonal. Donc, leurs articulations sont un petit peu plus serrées. C'est pas tout à fait le bon mot, là, mais il y a une meilleure congruence au niveau articulaire parce que leurs ligaments sont plus solides, plus stables. Et ça va favoriser le travail en force. Alors que les femmes ont des ligaments un petit peu moins toniques, si on veut.
Oui. Et l'autre concept dont vous parliez tout à l'heure, c'est l'endurance. L'endurance et la force, c'est quoi la nuance entre les deux?
Si on y va dans un aspect vraiment plus technique, un exercice en force, c'est un exercice où on va déployer vraiment notre force maximale. On ne devrait pas être capable de faire plus que 4 répétitions de cet exercice-là.
Tel quel,
là, on est dans de la force
exemple,
pure. Ben, l'haltérophile, lui, est dans de la force pure. Donc, oui, on veut être capable. Tantôt, on parlait de se sortir du pétrin. Donc, on peut déployer une force maximale pour une courte période.
Pour la survie.
Pour la survie, de façon ponctuelle. On devrait tous être capable de faire ça.
Ouais.
Dans le quotidien, moi, je trouve que l'endurance, c'est plus utile. Parce qu'on a des longues journées, on va, tu sais, faire... le matin, c'est la routine avec les enfants. Après ça, on va travailler. Après ça, on va aller chercher à l'école. On revient, on fait le souper.
On a fait beaucoup de choses.
On a fait beaucoup de choses.
Oui.
Et il faut être capable de faire ça sur une longue période, donc sur toute la journée. Donc, au niveau de l'endurance, là, on est dans des charges qui vont être moindres et des plusieurs répétitions. Donc là, on tombe dans du 16-20 répétitions minimalement. Si on parle de laver les fenêtres, ça, c'est un travail d'endurance. Vous allez le faire, votre mouvement circulaire, là, pendant une longue, longue, longue période. Donc, il faut avoir les deux. Il faut être fort et endurant.
Et pour la marche, c'est surtout
pour
l'endurance.
Oui. Peut-être qu'il y aura une petite montée un petit peu plus ardue, mais il faut être capable d'avoir de l'endurance avec des petits plateaux et des moments un petit peu plus intenses.
Donc, la posture... Et la force, ça va de pair.
Ça va de pair, d'autant plus que si on a une bonne posture, on va être plus fort.
Voilà.
Il y a une certaine économie d'énergie. Si les segments sont bien alignés, le muscle va travailler de façon optimale. Les tendons vont être bien alignés, il n'y aura pas d'irritation. Donc, on dépense moins d'énergie si on est bien aligné. Et dans le travail postural, on vise un exercice, un mouvement qui est juste, mais qui n'est pas excessif. Donc, on n'a pas besoin de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions si on travaille bien. Versus travailler bêtement puis juste s'essouffler à faire le même mouvement sans trop y réfléchir, ça va prendre plusieurs répétitions pour avoir des résultats. Mais si on travaille de façon efficace, dans le bon alignement, ça va être beaucoup plus rentable.
Donc, pour la marche, on voit bien l'harmonisation de l'endurance, la force,
absolument,
la posture, tout va de pair,
et
on marche beaucoup mieux. Oui. Et le corps est plus heureux. Le marcheur est plus heureux.
Le marcheur est plus heureux. Et si vous avez une bonne posture, puis on parle beaucoup du tronc depuis tantôt, la colonne, tout ça, mais les jambes aussi.
Oui.
Donc, si vous avez les genoux un petit peu par en dedans, le pied un peu affaissé, puis là, vous marchez longtemps là-dessus, vous allez développer des maux.
Oui.
Donc, il faut faire un travail d'alignement et de renforcement aussi en amont pour une marche qui va être plus confortable.
Une des particularités que j'ai trouvé très intéressante dans le livre, le livre offre quelques pratiques quotidiennes. Et à tous les chapitres, on donne des exemples.
Oui.
Alors, si on parle de force musculaire, est-ce qu'il y a un ou deux exemples de choses qu'on peut faire pour... améliorer la force musculaire.
Je ne me rappelle pas des exemples qui sont dans le livre, mais je peux vous en sortir. C'est sûr que moi, je privilégie toujours, si vous faites des exercices, peut-être de les faire pré-approuver approuvé au préalable plutôt par un professionnel, que ce soit à la gestion de table ou ailleurs.
Dans le cadre des programmes de
d'entraînement. Oui, mais aussi parce que...
Même au jour le jour.
Un exercice qui est bien choisi, mais qui n'est pas bien exécuté, peut être délétère. Oui. Donc là, je veux bien vous donner un exercice comme ça, mais il faut s'assurer que l'exercice est bien fait. Donc, il y a le classique pour la force, c'est les pompes, le push-up. Là. Donc,
Les
mains.
Oui.
Moi, je privilégie sur les genoux plutôt que sur les pieds, parce que le bras de levier est plus court, c'est plus facile de bien se placer.
Ah, intéressant, oui.
Mais, tu sais, par exemple, si je prends ma position pour les pompes ou le push-up qu'on appelle en bon québécois, mais les épaules doivent être au-dessus des mains. Donc, des fois, les épaules ne sont pas au-dessus des mains. Mm-hmm. Il faut que l'appui sous la paume de main soit bien réparti pour épargner le poignet. Mm-hmm. Et il faut absolument gainer au niveau des abdominaux puis s'assurer d'un bon alignement au niveau du dos. Encore, mm-hmm. la tête, les épaules, le bassin, même chose, mais là, on est sur le ventre.
Mm-hmm.
Ben,
oui.
Plus ou moins sur le ventre.
C'est ça. Oui.
Mais je vous recommanderais quand même juste de faire valider votre posture puis votre alignement quand vous le faites plutôt que de vous lancer dans des exercices comme ça. J'ai vu beaucoup, beaucoup de gens qui ont plein de belles intentions, qui mettent le temps, ils ont la discipline, puis sont juste à côté de la traque. Je trouve ça toujours désolant.
C'est pas le bon exercice ou il est pas bien fait.
Exactement.
Oui. Oui. Oui.
Généralement, c'est des petites corrections mineures à faire, mais ça vaut vraiment la peine de les faire, puis d'avoir un œil extérieur là, qui est bien aiguisé.
Alors, on a parlé de force musculaire et on passe à la souplesse, qui est très importante, encore une fois, pour la marche, mais dans la vie de tous les jours.
Dans la vie de tous les jours, oui. La marche également. Là,
oui,
moi, je privilégierais, mon Dieu, j'ai la difficulté avec ce mot-là, des étirements avant et après pour, assouplir, mais détendre les muscles des jambes qui vont avoir travaillé beaucoup.
On n'y pense pas parce que, bon, marcher, on va prendre une marche. Bon, ben, je sors, je prends une marche, je reviens, je m'assois ou je fais autre chose.
Oui, bien, c'est sûr que si vous faites une petite marche après le souper, vous n'êtes pas obligé de rentrer dans tout un processus d'étirement. Mais si vous faites une randonnée, je pense
ça
commence à valoir la peine.
Oui.
Mais aussi, juste comme pratique quotidienne, de faire des étirements régulièrement. Là, je parlais des jambes, mais des étirements de tout le corps. Votre corps va être beaucoup plus heureux. Vous allez avoir une plus grande liberté de mouvement, en fait, parce que muscles travaillent en groupe. Donc, quand on a on appelle ça des muscles agonistes et antagonistes. Le nom n'est pas important, mais si je vous donne un exemple simple à partir des jambes, mais quand le quadriceps à l'avant de la cuisse se contracte, l'ischio-jambier à l'arrière doit s'allonger pour permettre la contraction.
Toujours
et
l'équilibre.
Et vice-versa. Ouais. Mm-hmm. C'est un peu comme un système de poulie. Donc, si vous avez une corde à linge, puis vous tirez sur une corde, bien, l'autre, elle s'en va dans l'autre sens. Donc, si vos muscles sont forts, très forts, mais raides, manquent de souplesse, ça va nuire à votre renforcement musculaire. Ça va nuire à votre activité. Et à la longue, les articulations vont perdre de l'amplitude. Donc, les exercices d'étirement, la souplesse, c'est vraiment la clé. Moi, je commencerais même avec ça, avant même un programme de renforcement musculaire. Je commencerais par assouplir pour rééquilibrer les tensions.
Mm-hmm.
Puis ça fait qu'après, ça va être plus facile de faire les exercices. Donc, moi, je vois souvent un exemple qu'on voit beaucoup à la gym sur table, c'est qu'on demande aux gens d'abaisser les épaules dans les exercices. Et là, ça nécessite un renforcement des petits muscles sous le niveau des omoplates. Mais si les muscles en haut, trapèze par exemple, sont très rigides, bien, on a beau essayer de descendre l'épaule, il y a quelqu'un qui tire vers le haut, là. Donc, il faut venir assouplir pour mieux renforcer par la suite.
Est-ce qu'il y a une différence entre, encore une fois, l'homme et la femme au niveau de la souplesse?
Oui. Tantôt, on parlait que les hommes étaient plus forts. L'envers de la médaille de ça, c'est qu'ils sont moins souples. Parce que le muscle est plus dense et plus court. Donc, pour eux, c'est plus difficile d'aller chercher de la souplesse, en fait. Et il faut respecter ça. Donc, il faut le travailler, il faut maintenir ce qu'on a, mais il ne faut pas aller trop loin parce qu'on risque de se blesser là-dedans aussi. Et l'aliment dans les étirements est important également.
L'aliment, c'est quoi?
Bien, l'aliment, c'est la posture.
La posture, voilà.
Donc, si je veux me donner l'impression que je m'étire plus, mais je néglige ma posture, je vais soit me blesser ou j'augmente pas la souplesse de ce muscle-là, je suis en train de travailler un autre muscle plus loin. Donc, il faut encore une fois être très conscient de ce qu'on fait, pourquoi on le fait et comment on le fait.
La souplesse, on perd avec l'âge aussi?
Oui, malheureusement.
Est-ce qu'on peut la récupérer?
Je vous dirais qu'il faut en premier lieu vraiment maintenir, entretenir ce qu'on a pour ne pas le perdre.
D'accord.
Je ne pense pas qu'on récupère beaucoup, mais on peut se mettre à un programme d'étirement quand même à un âge assez avancé et y voir des bienfaits. Ralentir le processus de cette perte de souplesse-là. Mais on ne deviendra pas des artistes du Cirque du Soleil si on commence à s'étirer à 50 ans. Là.
Donc, on peut améliorer de beaucoup.
On
quand
peut
même.
Améliorer, ouais. On peut certainement maintenir ce qu'on a. Mm-hmm. Et le confort va être amélioré aussi parce qu'on va avoir une plus grande liberté de mouvement. Puis mieux on se sent, mieux on bouge, plus on veut bouger. Puis là, c'est tout un cercle vertueux qui part de là. Donc, si on a de la difficulté à mettre le manteau parce que l'épaule ne veut pas aller dans la direction, c'est difficile de sortir de la voiture. Là, on commence à dire, bon, j'ai moins le goût de bouger, j'en fais de moins en moins, puis là, ça dégringole. Donc, il faut y aller.
Donc, un étirement optimal, c'est la posture, c'est de bien faire le mouvement, c'est d'aller le plus loin possible.
Je n'irais pas pour le plus loin possible. Ça va dépendre de la morphologie de chacun.
Toujours.
Oui.
Toujours,
c'est donc, c'est sûr que quelqu'un qui a eu une blessure devrait faire attention dans l'étirement. Il ne veut pas aller abîmer davantage ou fragiliser le ligament ou le muscle qui a été blessé. Donc, il faut y aller dans le respect de ça. Il ne faut pas que ce soit douloureux. Cela dit, ça peut être inconfortable.
Mm-hmm. Oui.
Hein? C'est tendu au début, c'est raide, ça fait presque mal, mais la qualité de la douleur n'est pas comme une douleur qui est un signal d'alarme.
C'est ça, qui va s'atténuer avec le temps.
Oui, exactement. Au cours de l'étirement comme tel et aussi au fil des séances. Mm-hmm. Ensuite, il y a des gens qui sont ce qu'on appelle hyperlaxes. Donc, eux, leurs articulations sont très, très mobiles. Ils ont généralement des tendons et des ligaments qui sont un petit peu trop longs ou trop souples, si on veut. Conséquemment, quand ils font un étirement, ils ont l'air d'aller bien loin. Mais ils sont juste en train de travailler leur force, qui est les ligaments qui sont déjà très, très souples. Le muscle n'est pas en train de s'étirer. Donc, il y a une façon de venir stabiliser l'articulation pour s'assurer que l'étirement est vraiment distribué au niveau des fibres musculaires et non pas au niveau des fibres ligamentaires. Donc, ça aussi, ça se fait au début avec un encadrement, puis après, on arrive à le répéter facilement toute seule. Et il faudrait tenir les étirements entre 20 et 30 secondes, minimalement.
Intéressant, oui.
En respirant profondément, calmement. Et j'amènerai encore cette attention ou cette conscience-là du corps, même si ça peut être un peu inconfortable. Il ne faut pas fuir cet inconfort-là parce que ça nous donne aussi une bonne lecture de ce qui se passe. Donc, je ne veux pas aller trop loin. Si je dépasse mon seuil de tolérance, je peux me blesser. Donc, voilà.
La conscience. Tout est là. Oui. Vous avez parlé de souffle, de respiration. On prend une petite pause, on respire et on revient dans quelques secondes. Nous sommes de retour avec Michel Cousinat-Baudet. Michel, nous avons parlé évidemment à l'émission beaucoup de respiration, marche afghane, toutes sortes de façons de respirer, l'importance de la respiration. J'aimerais entendre votre point de vue sur l'importance justement de la respiration et peut-être comment on peut l'améliorer.
Je pense que la première étape, c'est juste de prendre conscience. Je reviens souvent avec la conscience, bon, mon dada, c'est un peu la conscience corporelle, puis comment les gens habitent leur corps. Donc, d'essayer d'observer comment on respire. Parce qu'il y a des gens qui vont respirer seulement au niveau de la poitrine. Il y a une respiration qui est plus basse, qui est plus abdominale. On peut avoir une respiration qui est saccadée, qui est courte, qui est ample, qui est lente. Et ça va fluctuer au cours de la journée en fonction de nos activités, de nos émotions. Donc, déjà, juste de faire une lecture de comment on respire, ça va être la première étape. Puis à partir de là, essayer de voir comment on peut utiliser le souffle pour améliorer le confort du corps, mais aussi de l'esprit. Donc, je pense qu'idéalement, une respiration devrait être ample, fluide, vivifiante.
Voilà. On sent bien, on est heureux, là.
Oui. Dans les cours de gym sur table, on utilise la respiration pour travailler la posture également. Donc, il va y avoir différents exercices qu'on peut faire pour, par exemple, augmenter la mobilité au niveau de la cage thoracique. Donc, si la cage thoracique est très rigide, si tous les muscles sont tendus, ben on n'arrivera pas à inspirer de façon ample. Ça va être plus difficile. Ou on va utiliser certaines parties de notre cage thoracique, mais pas nécessairement toute la circonférence. Donc, on veut aller travailler tout ça. Puis, ben le souffle, c'est la vie. Donc, mieux on respire, mieux on est oxygéné, mieux se fait la circulation, l'échange au niveau cellulaire. Donc, c'est la base.
La détente, la souplesse, tout
ça,
passe par là.
Tout passe par la respiration. On pourrait faire des cours juste de respiration en fait, là. Puis à la fin, on serait pratiquement courbaturé. Parce que ça vient chercher tous les petits muscles intercostaux. Il y a une certaine subtilité, mais c'est plus demandant qu'on peut s'imaginer. Parce qu'on respire comme chacun respire. Mais si je vous amène à explorer la respiration ample, optimale, pleine, ça va solliciter quand même plusieurs parties du corps qu'on ne suspecte pas.
Mm-hmm. Est-ce qu'il y a une façon optimale de respirer? Et là, je vous entends, vous allez dire, ça dépend de...
Ouais. je vous dirais que ce que je vois beaucoup, c'est des gens qui ont une respiration qui est thoracique, qui est superficielle, qui est très haute. Et je pense que ça peut être un peu anxiogène.
Oui.
Donc, c'est parce que c'est une respiration qui va reproduire un peu... Si on court, on fait une course rapide, bien là, on va arriver, on va mettre les mains sur la table et on va essayer de reprendre notre souffle.
Ou la nervosité, ou la tension, l'anxiété.
Exactement. Mais ça envoie un message au cerveau qui a un petit drapeau rouge qui allume. Il dit, OK, il se passe quelque chose. La personne a été soufflée, est énervée, est stressée. Donc, si on reste dans cette respiration-là, on entretient une espèce de boucle inconsciente avec le cerveau qu'il y a un état d'urgence ou qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, je vous dirais déjà de prendre un temps pour aller chercher une respiration qui est plus profonde
plus basse.
Plus abdominale. Plus basse, plus ample, plus consciente.
Consciente, on prend le temps de
respirer. On prend le temps. On peut même juste mettre le bout des doigts sous le niveau du nombril puis essayer de venir respirer dans les doigts. Pour aller chercher une respiration qui est plus profonde, plus basse, plus ample, bien, déjà ça va envoyer un message au cerveau que tout va bien. Donc là, il va y avoir une certaine détente, un certain calme qui va s'installer. Donc, j'irais pour ce type de respiration-là idéalement.
Et de pair avec la respiration, le souffle, il y a tout le système cardiovasculaire, là, la pompe, le cœur.
Oui, le cœur.
Ça, il faut en prendre soin.
Absolument, absolument. Puis... c'est vraiment on veut prendre soin du muscle cardiaque. Donc, le cœur, c'est un organe qui est musculaire. C'est vraiment fait de fibres musculaires. Et on veut que ces fibres-là soient assez fortes pour pomper le sang, le projeter dans le corps jusqu'où il doit aller. Et ça va varier en fonction de l'activité. Donc, si on fait une marche plus lente versus une marche d'un bon pas, bien, le cœur va pomper un petit peu plus fort. Puis si je commence à monter dans ma randonnée, puis là, je fais une ascension, bien là, le cœur s'active davantage. Donc, on veut entretenir ça pour être capable de le faire et de le faire quand même sur une certaine période, donc en endurance.
Si j'ai bien compris, encore une fois, la force, la souplesse, le souffle, tout ça contribue à prendre bien soin du cœur, que le cœur, lui aussi, soit heureux. Là.
Absolument. Puis après, c'est toutes les fonctions aussi vitales. Puis c'est donc un cœur qui est en santé, qui pompe bien, donc un système cardiovasculaire qui fonctionne bien, ça va aider à réguler la tension artérielle. Ça va aider pour le diabète, le bon cholestérol, ça réduit les risques de maladies coronariennes. Donc, il y a plusieurs raisons pourquoi on veut entretenir cette pompe-là, ne serait-ce que de pouvoir courir après l'autobus si jamais il est au coin de la rue puis on arrive.
Ben voilà.
Puis de prendre notre bus, puis hop, ça
donc. Et on en revient à la survie. S'il y a un moment, un accident, un incident,
absolument,
ou une situation où, là, on doit faire vraiment appel à toutes nos forces.
Oui, oh, oui.
Le cœur va pomper.
Le cœur va pomper. Et je pense que c'est normal d'avoir des différents moments dans la journée ou dans la semaine où on va le solliciter de cette façon-là, de par nos activités. Puis après, bien, il y a les gens qui veulent faire aussi un entraînement spécifique cardiovasculaire, qui est quand même, je dirais, une bonne idée. Et c'est pas obligé d'être le jogging ou la course intense ou quelque chose de très, très exigeant. Une marche avec un bon rythme, où là, le cœur s'accélère c'est suffisant. Le chant est un excellent exercice.
Le chant?
Oui, chanter.
Ah!
Cardiovasculaire.
Dans la douche, n'importe
dans la douche,
où.
Par exemple. Mais tu sais, on chante, là. On se donne.
À l'opéra.
Oui. Exactement. Monter les escaliers. On peut intégrer ça dans notre quotidien.
Le temps file. Oui. Il y a une autre qualité dont j'aimerais parler, c'est la précision. Et là, je me réfère... Là, je reviens aux années 70. Il y a un de mes amis qui m'a donné un livre, ça s'appelait 20 minutes, 20 minutes d'exercice pour entretenir les muscles et tout ce dont on a parlé. Et en fait, ça se résume à lorsque vous faites quelque chose, vous le faites bien. Vous prenez le téléphone, ben, dans ce temps-là, c'était le téléphone. Vous agrippez le téléphone, tous les gestes, mais il faut être super conscient tout le temps.
Oui.
Mais c'est un peu ça, hein? La précision, entre autres, on est conscient, tous les gestes sont faits de façon très lente, avec précision.
C'est exactement ça, effectivement. Oui. Et c'est là où on peut intégrer ça dans le quotidien.
Voilà.
Donc, à cause de comment notre société s'est organisée, on a des temps attribués à l'exercice. Donc, on s'en va au gym pour faire notre exercice. Alors qu'avant, tout ça, ça faisait partie de la vie quotidienne. Il n'y avait pas de séance d'exercice après la journée de travail.
Voilà.
Donc, moi, je prends d'intégrer ça dans le quotidien. Donc, si on se... Par exemple, on se penche pour changer l'eau dans le bol du chat, mais on se penche comme il faut. On utilise les jambes, les paramètres que je vous ai donnés tantôt avec le dos droit, flexion des genoux, tout ça.
Très intéressant.
Si vous passez la balayeuse, même si ça ne vous tente pas... de passer la balayeuse, oui, moi la première, mais vous le faites bien, vous le faites en étant conscient de chaque mouvement, comment vous bougez votre corps, comment vous pourriez améliorer ce geste-là, et ça va, premièrement, rendre l'activité plus intéressante, parce que là, vous essayez de trouver la valeur que ça peut avoir.
Excellent.
Et ça va aussi éviter de vous blesser. Si vous le faites machinalement, sans trop réfléchir, puis bon, vous vous tordez un peu, vous risquez d'avoir des tensions puis de vous faire mal.
C'est ça. C'est comme descendre un escalier. Mmh. Si on n'est pas conscient, c'est là qu'on peut avoir un accident.
Absolument.
Tout simplement.
Absolument.
Bon, alors Michel, le temps encore file un tout petit peu et j'aimerais revenir à la gymnastique sur table.
Oui.
Alors, comment tout ce dont nous avons parlé pendant l'émission, comment tout ça se règle sur la table? Comment la gymnastique sur la table peut rendre le cœur... Le corps, le cœur aussi.
Le cœur et le corps.
Heureux avec tous ces exercices.
Mais en fait, la méthode de la gym sur table comprend une multitude d'exercices. Vraiment, il y en a des centaines. Et ils sont, de la façon que Thérèse a créé la méthode, il y a vraiment une progression. Donc, chaque exercice a... il y a plusieurs façons d'aller chercher les mêmes groupes musculaires. Donc, dans un cours de table où je vais avoir, disons, 10 personnes, on va tous travailler dans la même visée, mais pas nécessairement de la même façon. Donc, la dame à côté de moi a peut-être une blessure à l'épaule, donc je vais modifier un peu l'exercice pour qu'elle travaille bien, travaille fort, sans aggraver sa blessure. Et, bon, les autres vont faire un autre... Donc, il y a une certaine progression, il y a une évolution au niveau des exercices, ce qui permet à des athlètes très entraînés de venir faire de la table et à des gens qui sont à la limite blessés ou dans une optique de rééducation. Et je vous dirais que c'est un entraînement qui est doux, mais qui est efficace. On travaille fort, mais on travaille intelligemment. Donc, chaque geste compte. On est conscient de chaque geste, de comment on l'exécute. Et ça va vraiment donner des résultats extraordinaires. Parce qu'on va travailler le corps dans son ensemble. Donc, on va amener le corps à modifier certaines attitudes posturales pour une meilleure posture, pour être plus confortable, plus libre.
Donc, ce sont des idées. Comment ça se déroule, une session? D'abord, tout se fait sur la table. Ou presque.
Des fois, on va tourner autour de la table. C'est sûr que pour travailler les jambes, il faut être debout sur nos jambes.
D'accord.
Bon, on a des exercices pour les jambes qui sont sur la table, mais on va aussi faire...
Essentiellement sur la table.
Et ce sont des séances d'une heure où il y a une enseignante qui est là, qui va guider la séance. Donc, au début, on fait un éveil où il va y avoir certains exercices de mobilisation, assouplissement. Généralement, une petite période debout où on va augmenter un peu la fréquence cardiaque. Mm-hmm. Et on s'installe sur la table pour le renforcement musculaire. Mm-hmm. Donc, voilà. Il y a aussi des cours de stretching.
Oui.
Qui, là, sont complètement différents. Et là, c'est des séances d'une heure d'étirement en profondeur de tout le corps.
Et là, il y a des exercices qu'on peut faire à la maison.
Absolument.
Comme complément.
Comme complément. Il y a possibilité d'avoir un programme vraiment personnalisé.
Personnalisé, oui.
Cela dit, après, ce sont des concepts de base. Donc, moi, les enseignants qui sont là vont vous amener une certaine conscience corporelle, une certaine éducation de comment bien se placer, bien bouger. Puis après, vous pouvez soit répéter les exercices à la maison ou faire un transfert de ces concepts-là dans vos activités quotidiennes ou dans le sport que vous pratiquez.
Et pour avoir une bonne idée, vous offrez une session gratuite.
Oui, en fait, vous avez droit à un cours d'essai gratuit qui ne vous engage à rien, mais ça vous permet de venir voir comment on travaille sur la table, comment votre corps... aime ça. Et c'est ça, venez faire un tour.
Alors, j'en profite, rappeler le titre du livre, Le corps heureux, manuel d'entretien de Thérèse Cadrin-Petit, publié aux éditions de l'Homme. Et vous pouvez visiter le site de l'école gymnastiquesurtable.com ou encore profiter de la visite gratuite. Michel, merci beaucoup, beaucoup d'avoir été des nôtres et au grand plaisir de vous revoir bientôt.
Merci beaucoup, ce fut un plaisir. Merci.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et en rediffusion les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez également écouter l'émission en direct sur le site de Radio VM ou grâce aux émissions archivées ainsi que sur le site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour chaque épisode. Merci beaucoup à notre invité Michel Cousinat-Baudet. Et merci également à notre toujours heureux technicien, Valérian Fournier. Et bien sûr, merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous laisse avec cette pensée tirée du livre Le corps heureux et qui nous invite à être à l'écoute de notre corps et de mieux le connaître. Il est un adage selon lequel les Asiatiques sont propriétaires de leur corps, alors que les Occidentaux n'en seraient que les locataires. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine.